Moi, je m'appelle Cyril, j'ai 24 ans et j'habite juste à côté du parc de l'Alliance. Pendant le mois d'août est arrivé plusieurs familles d'Albanie et aussi de Macédoine. Et elles ont installé un campement, enfin des tentes, des constructions un peu précaires pour pouvoir survivre parce qu'elles étaient à la rue.
Il y avait combien de personnes à peu près?
Ça a pu un peu bouger, mais on est quand même sur une soixantaine de personnes.
Je te propose qu'on fasse un peu le tour du parc et si tu peux me décrire un petit peu comment c'était au moment où il y avait le campement.
Alors déjà à l'entrée du parc, là on voit il y a un petit arbre et cinq bancs. Là ils avaient installé un premier feu de camp où les gens se retrouvaient souvent le soir ou même pendant la journée pour pouvoir se réchauffer ou à peu près en commun. Et après donc actuellement on voit les traces de bulldozers qui ont rasé le campement en novembre. Mais il y avait une première ligne de tente un peu à côté des buttes là et sous les arbres. Là, il y avait quatre baraques un peu construites en palettes, en bâches, etc., etc. Et derrière la butte et à côté des jeux d'enfants, il y avait encore d'autres tentes et de baraques. Et donc, tu avais là une sorte de place qui s'était construite avec les feux pour cuisiner, etc., etc. Et les campements et les tentes des différentes personnes et des familles. Et à peu près devant toutes les tentes ou baraques, il y avait un coin de feu pour simplement pouvoir cuisiner, se réchauffer. Et ils avaient essayé d'installer des endroits pour essayer de faire sécher le linge quand ils arrivaient à pouvoir le laver ou des choses comme ça. Et voilà, au bout de 3 mois, plusieurs toilettes ont été mises à disposition par la ville. Et aucun lieu sanitaire, douche par exemple, n'a été mis en place. Pendant septembre, on avait déjà fait une fois ou deux des allers-retours avec un de mes colocataires pour récupérer des fringues dans des gratuiteries autour de Grenoble et on les a lavées chez nous pour les apporter propres aux familles. Et c'est début octobre, on rentre le soir à l'appart et on voit une pétition qui appelait à l'expulsion du campement. Donc ça m'a pas mal indigné. Et avec mon coloc, on a lancé une autre pétition soutenant l'accès aux droits à l'hébergement et au logement qu'on avait placardé dans tout le quartier et qui avait réussi à susciter pas mal de soutien sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 immeubles de 6 étages. Donc ça représente peut-être 300 foyers. On avait très très vite 150, 160 signatures. On est monté à 200 assez rapidement. Et beaucoup de gens du voisinage avaient été assez outrés aussi de la première pétition demandant l'expulsion. Début novembre, où sur Grenoble, il commençait un petit peu à neiger, à geler toutes les nuits. Il y avait plusieurs nuits où c'était descendu en dessous de moins 5, moins 8. Lundi soir, on arrive avec différentes personnes sur le campement pour voir comment ça se passe. Et les enfants étaient tous malades à cause du froid. Il y avait aussi différentes personnes, même adultes, qui tombaient malades et elles n'en pouvaient plus. Tout simplement, elles n'en pouvaient plus, en sachant qu'elles, pendant de septembre à fin novembre, début décembre, elles avaient déjà participé à des mobilisations et des manifestations devant la préfecture et devant aussi donc Place Verdun et aussi auprès du service qui est censé s'occuper de l'hébergement des personnes qui sont sur le territoire. Donc c'est la cité administrative d'Aude derrière le commissariat de police. Et tout ça n'a pas amélioré leurs conditions, alors que le droit à l'hébergement est censé être automatique pour les personnes qui arrivent sur le territoire, qu'importe leur situation administrative. La mairie de Grenoble, administrativement, elle est censée s'occuper particulièrement de la santé et surtout la scolarisation des enfants de moins de 15 ans, donc c'est-à-dire école primaire. Particulièrement, et collège et lycée aussi, avec le département et la région. Et rien que sur le sujet de la scolarité des jeunes enfants en école primaire, ça a été très long. Il y a des enfants qui étaient toujours pas scolarisés fin novembre. Et donc le froid, plus le non-aboutissement de l'accès aux droits, les a obligés à devoir engager eux-mêmes leur mise en sécurité. Et donc, elles réfléchissaient à entrer dans un lieu. Et c'est le mardi soir, je retourne sur le campement un peu plus tard. Et en fait, les familles étaient déjà entrées dans la bibliothèque quand je suis arrivé. Et avec une acceptation plutôt de la part des bibliothécaires qui, en plus, déjà étaient en lutte par rapport à l'application du pass sanitaire sur les bibliothèques. Et il y a un élu de la ville, l'élu d'astreinte, qui est passé et qui avait annoncé que les familles auraient 2 jours de répit et que les négociations étaient entamées entre la préfecture et les services de la ville qui, depuis le début de l'installation du campement, faisaient plus ou moins des recensements. Et donc le lendemain, mercredi, tout le monde revient, on passe des appels, des coups de fil au 115 et on n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles de la ville, pas de nouvelles de la préfecture. Il y a les personnes du CCAS et de la maraude de la ville qui étaient pas mal de temps avec nous dans la bibliothèque, mais qui ne donnaient pas d'informations. Il y a un moment, en fin d'après-midi, vers 16h, il y a un premier bulldozer qui arrive. Et on n'avait pas de nouvelles d'où il venait, pourquoi. Et donc tout le monde se dit, ça y est, ils veulent raser le campement, vu que les familles n'y sont plus dedans. Des familles et des soutiens ferment l'ouverture du campement, du parc, vu que c'est un parc qui est, où il n'y a qu'une seule entrée depuis la rue. Et donc le bulldozer ne peut pas rentrer, on leur demande pourquoi ils étaient là, ils ne nous donnent aucune information, ils repartent. Et une demi-heure, une heure plus tard, vers 17h30, alors qu'on était en train de jouer avec les enfants dans la bibliothèque, on voit des camions de la police nationale entourer la bibliothèque. Des soutiens aux familles sortent pour leur demander qu'est-ce qu'ils prévoient de faire. Aucune information est donnée. On n'a jamais eu le cadre légal de cette intervention. Vu que c'est un bâtiment de la mairie, il faut que la mairie porte plainte pour qu'il soit évacué. Et donc la police nationale, donc, qui dépend de la préfecture, entoure la bibliothèque et à un moment commence à rentrer de force dans le bâtiment et à évacuer tout le monde de manière très violente. Donc il y a des enfants qui se sont retrouvés pieds nus dans la boue en sachant qu'il pleuvait ce jour-là. Tout le monde est à moitié tabassé, gazé par la police. Et donc à un moment la bibliothèque est entièrement évacuée. En sachant que personne n'ayant été prévenu de l'intervention de la police, les familles n'avaient pas pu regrouper leurs affaires, n'avaient pas pu reprendre leurs manteaux, reprendre leurs papiers. Et puis y a eu un moment de flottement où la police entourait la bibliothèque, empêchait tout le monde de rentrer pour récupérer quoi que ce soit. Et du fait de la violence qui a été déployée, beaucoup de familles se sont enfuies. Et la police commence à avancer vers les tentes, qu'il n'y avait plus grand monde qui était du côté des tentes et on voit revenir les camions de la ville pour de la déchetterie de la ville, donc bulldozer et tout le bordel qui donc veulent atteindre le campement et donc le raser, en sachant que pendant ce temps-là la police nous empêche d'accéder aux tentes pour pouvoir récupérer des affaires. Et ça doit être peut-être 2-3 heures après donc, cette intervention policière et le début de l'encerclement des tentes, il y a un bus qui débarque. On n'avait pas d'informations de d'où il vient, qui l'affrète, pour aller où. Et il y a une personne de la préfecture qui dit, qui fait comprendre au soutien, faites monter les familles dans le bus. Et quand les familles demandent il va où, il y a un agent de la police nationale, donc je pense le chef du bataillon qui est passé là, qui leur dit montez là-dedans, vous verrez où ça ira. Et donc les dernières familles qui étaient encore sur le campement s'enfuient définitivement, parce que en gros ce qu'elles nous ont dit plus tard, c'est elles avaient peur d'être conduites à la frontière ou d'aller en centre de rétention administrative. Ce qu'on a appris après coup, c'est que ce bus qui était arrivé 3 heures après l'intervention policière amenait réellement vers un centre d'hébergement qui a été ouvert à Moiran, dans la zone d'activité de Moiran. Et donc, à partir de cette nuit du mercredi, un centre d'hébergement pouvant accueillir normalement la soixantaine de personnes du campement était disponible.
Les familles actuellement, elles sont hébergées à Moiran, mais en fait la situation ne s'arrête pas là. Et ce qui est très illustrateur de ce qui se passe maintenant, c'est que juste avant l'interview, on a rencontré, on est tombé par hasard sur une personne qui a fait partie des familles qui étaient sur le campement. Et donc on a cru comprendre que la situation n'était pas idéale pour tout le monde et qu'en fait ça ne s'arrêtait pas du tout à l'hébergement et qu'après il y a tout un tas de démarches à entreprendre pour... trouver un logement, être hébergé, avoir sa situation reconnue. Peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus au sujet de la situation actuelle des familles qui sont à Moiran.
J'ai pas pu retourner à Moiran ces derniers temps, mais les informations qui viennent, c'est une bonne partie des familles sont de confession musulmane et il aurait été servi du porc. Donc on voit un manque de respect total de la part des services qui ne prend pas en considération rien que le régime alimentaire des personnes qui sont censées héberger. Le centre d'hébergement, c'est un motel qui est en dehors de Moiran, avec très peu d'accès au bus, pas d'école à côté. Et bien sûr, pour les démarches administratives des familles, des complications, parce que venir sur Grenoble pour venir à l'OFI, pour continuer de suivre leurs démarches administratives et bien sûr avec aucun accès au travail, aucun accompagnement quoi, c'est ça qui est. Donc il y a des toutes petites chambres, donc vivre plusieurs mois dans une toute petite chambre de motel, c'est pas non plus fameux. Pas d'accès à une cuisine, donc si les familles veulent préparer elles-mêmes leur repas, qui est pour moi je pense déjà un minimum pour l'accès à la dignité, pouvoir préparer soi-même sa bouffe, etc. Ça leur est refusé. J'ai pas pu reprendre encore de contact avec les familles.
Et pour autant, toi, tu as continué ton engagement en t'investissant ailleurs actuellement.
J'ai de fait de soutien à côté du campement. J'ai pas mal rencontré des personnes particulièrement du droit au logement qui avaient accompagné les luttes, particulièrement l'organisation des manifestations auprès de la préfecture courant le mois d'octobre. Et je vais continuer un petit peu de m'engager auprès de cette association qui lutte pour l'accès aux droits de ces personnes, mais aussi de beaucoup d'autres qui sont à la rue et qui du fait de son expérience des luttes depuis les années 80 pour l'accès au logement et à l'hébergement, revendique l'application de la loi réquisition, qui est une loi qui existe en France depuis les années 45-50, qui a été appliquée quelques fois, mais toujours sous la pression. La mairie et la préfecture peuvent se mettre d'accord pour obliger les propriétaires d'un bâtiment à ce qu'il soit mis à disposition de différentes personnes dans des situations de précarité. Et donc cette loi est une obligation auprès des propriétaires contre une indemnité de l'État d'ouvrir des logements pour un cadre spécifique qui est donc sortir des gens de la rue ou sortir des gens du mal logement, donc conditions insalubres d'habitat ou des choses comme ça.
Donc la lutte continue. Merci beaucoup Cyril pour tout cet entretien et bon courage pour la suite.